Voici de retour dans le studio 47 de la Voix de l'Amérique à Washington avec vous, Eric Manilakiza, pour une émission spéciale dédiée aux enjeux actuels qui façonnent le Sahel. Nos invités, Karine Kaneza Nantulia, directrice adjointe de la division Afrique chez Human Rights Watch, Amadou Cissé, ancien membre de la Banque mondiale. Il est économiste et ancien membre de son conseil d'administration. Et Juste Kodjo, ancien officier supérieur des forces armées béninoises, actuellement professeur d'études de sécurité et directeur du programme de doctorat en gestion de sécurité à la New Jersey City University aux États-Unis. Sans oublier notre audience qui nous suivent dans ce studio 47 de VOA Afrique pour cette discussion cruciale, il faut le souligner. Le Sahel, riche en ressources humaines et naturelles, vous l'avez dit, est confronté à de nombreux défis. Instabilité politique, prise de pouvoir anticonstitutionnelle, vulnérabilité économique, faible capacité institutionnelle et extrémisme violent. Les acteurs internationaux et régionaux influencent aussi les dynamiques locales et impactent les efforts de stabilisation et de développement. Nous en parlons tout de suite. Karine, je commence avec vous. Le Sénégal, le Ghana et le Nigeria connaissent des démocraties relativement stables, il faut le dire. En prenant l'exemple du Sénégal, quelle pourrait être son influence sur les pays dirigés par ces régimes militaires de transition, et quel rôle jouent les mouvements de base et la société civile dans la gouvernance des pays du Sahel?
C'est une très bonne question, parce que je pense qu'elle ramène un petit peu ce dont on parlait avant la pause, le rôle des pays africains. Le Sénégal est un exemple éclatant, étant donné que justement le pouvoir politique maintenant se retrouve entre les mains d'un groupe, d'une catégorie justement de citoyens qui, il n'y a pas très longtemps, se retrouvaient dans une position d'opposition que certains ont qualifiée à plusieurs reprises de farouche et radicale. Mais là, maintenant, nous voyons un nouveau gouvernement dirigé par une équipe jeune et qui n'est pas nécessairement un pouvoir militaire, n'est-ce pas? Donc maintenant, en tant qu'exemple, en tant que symbolique africaine, je pense que le Sénégal est, de par sa proximité géographique, ethnique, politique, etc., est un exemple qui ne peut pas être ignoré. La discipline militaire dont le Sénégal justement se démarque, en fait, par laquelle le Sénégal se démarque, est un autre exemple. Nous parlons souvent, et là je vais me tourner vers mon frère Monsieur Kodjo, nous parlons souvent de mentoring entre les armées occidentales et les armées africaines. Je me pose parfois la question de savoir, et je suis juriste, je suis activiste des droits humains, donc ce n'est pas un domaine que je peux prétendre connaître. Mais souvent, je me pose la question de savoir s'il y a, par exemple, une discussion, une volonté, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau des experts, justement des think tanks, d'un mentoring entre armées africaines. C'est une dynamique, je pense, sur laquelle on devrait se poser. L'autre réponse, c'est par exemple par rapport au rôle que le Sénégal a joué. Il n'y a pas très longtemps, il était au sein du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. C'est un gouvernement qui est connu justement pour sa position neutre et démocratique sur les questions des droits humains. Est-ce que, de par justement son interaction avec l'Union africaine et l'ECOWAS et la communauté des États africains de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, nous avons quand même aussi le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont justement décidé d'exiter ce bloc régional. Est-ce qu'il y a possibilité, parce que maintenant